Et la sauvagerie maîtrisée des Savages.
Live Me Do.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous ce soir à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Moi, j'adore aller au concert avec mes enfants.
Dominique Boutel, productrice.
Et après, ce sont eux qui ont envie d'y retourner.
Musique au musée, les musiciens de l'Orchestre National de France explorent les trésors du muséum avec Maurice, le dodo voyageur. Rendez-vous le 5 avril à 16h au Jardin des Plantes.
La musique comptée, expliquée, jouée tous ensemble, petits et grands.
Info sur concert.radiofrance.fr ou découverte.onf.fr.
France Bleu, les concerts privés.
Avec ou sans toi, c'est pas la même chose.
Les concerts privés présentés par Élodie Suigo avec Gaël Faure et Pascal Obispo.
Personne n'est revenu encore.
Demain soir à 21h sur France Bleu.
Allez, attends.
France Bleu, un réseau du groupe Radio France.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. France Inter,
la voix est libre.
15h05, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Merci Daniel d'avoir rediffusé cet entretien avec Cornelius Castoriadis. C'était très émouvant. Il se trouve que un soir, dans un colloque il y a plus de 30 ans, il avait eu cette phrase terrible: après la mort, il n'y a rien. Eh bien si, Cornelius, après la mort, il y a ceux qui t'ont connu et lu, ou seulement lu, et qui ne sont pas prêts de t'oublier. C'était Paul de Nantes.
Merci beaucoup pour ces 50 minutes de Castoriadis. On aurait pu faire une heure si la direction de Radio France ne nous avait pas piqué ces 50 minutes d'intelligence et de démocratie. C'est bien dommage, hein, faut le rappeler de temps en temps. Moins 10 minutes.
Oh, qu'est-ce qui lui arrive, là, Pierre-Laurent, là, de dire qu'il faut appeler à voter UMP pour faire barrage au FN. C'est pareil. Copé, Geoffroy, Didier, Sarkozy, Christian Jacob et compagnie, c'est la même chose que Le Pen. Et je dis bien Pierre Laurent et pas le Parti communiste, parce que les militants communistes, ils sont contre ça. Ils sont pour des listes autonomes au premier tour des municipales. Ils sont pour, on va dire, un front de gauche autonome. Qu'est-ce qu'il arrive à lui, là, à appeler à voter UMP, là? Il a craqué ou quoi, là? Oh, monsieur Laurent, faut se réveiller un peu, là, hein. Allez, bonne fin de journée, ciao.
On m'a toujours expliqué que le problème avec les Russes, c'était le communisme. On disait que Staline montrait bien que le communisme menait à la dictature. Le mur de Berlin tombe en 89, la Russie devient capitaliste. 2013, la guerre froide reprend, la Russie est toujours capitaliste. Donc, le problème avec les Russes, il est moins lié à un conflit idéologique qu'à un conflit géostratégique. Cela allège bien des griefs que l'on adresse d'habitude au communisme en tant qu'idéologie, non? Marc, danger.
Allô? 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 Ah, il n'y a personne. Ah, mais j'ai fait le numéro du Parti Socialiste. Ah oui, il n'y a plus personne. Ah. Bon. Ben, j'ai compris maintenant pourquoi le Boeing 777 a disparu. C'est Hollande qui pilotait. Ça doit être ça. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs de France Inter. Tous les AMG, les habitants d'Aubagne et du pays de l'Étoile, sont invités pour un repère exceptionnel. Réveillons-nous. Solidarité, vie associative, culture, gratuité, service public. Nous allons les conserver. Je vous attends très nombreux ce jeudi 27 mars à 19h30 au restaurant Le Borsalino, 3 boulevard Jean Jaurès, à Aubagne. Salut et fraternité.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, et n'oubliez surtout pas le repère d'Aubagne. Demain, à 19h30, au Borsalino, un repère tout à fait exceptionnel, et surtout, surtout, amis d'Aubagne, et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voter ce dimanche prochain, c'est très très important, vous vous en doutez, et vous le savez. Aujourd'hui, bah, c'est un peu la suite du sujet d'hier avec Cornelius Castoriadis, du sujet d'avant-hier avec Emmanuel Todd et François Ruffin. Aujourd'hui, c'est Normand Baillargeon. Normand Baillargeon, c'est un chercheur québécois qui est l'auteur, entre autres, d'un bouquin qui a fait pas mal de bruit il y a quelques années, Le Petit Cours d'autodéfense intellectuelle. Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Comme son nom l'indique, il s'agit d'acquérir chacun d'entre nous les moyens de se défendre et d'être critique, instinctivement, j'allais dire critique, vis-à-vis de tout ce qui essaye, quotidiennement de nous manipuler, de nous bourrer le mou, mais sans parano, sans le truc rejet, tous pourris, machin, etc. Non, intelligemment, en étant capable de penser par soi-même. Voilà, c'est le développement de la pensée autonome. Ça a l'air de rien, eh bien, c'est pas si évident que ça. On le verra, entre autres, au début de ce reportage, avec le thème de la soumission à l'autorité, la fameuse expérience de Stanley Milgram. Voilà notre sujet aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et surtout, amis d'Aubagne, dimanche, on vote.
Nous sommes l'âme invisible. Nous sommes le pas reconnu. Nous sommes le cauchemar terrible. Nous sommes le perdu de vue. L'infirme, le fragile, dépendant, la fourmi qui se trouve fort dépourvue. Nous sommes le fardeau des familles, le débrouillard qui ne peut plus, l'accidenté de la vie, de la maladie ou de la route. Nous sommes l'appel tant redouté. Tu peux m'aider, merci beaucoup. 79% handicapés, 79,5%. L'MDPH peut rien donner. Ah non, il faut 80, madame, le barème le dit. Nous sommes l'homme invisible, nous sommes le pas reconnu, nous sommes le cauchemar terrible, nous sommes le perdu de vue. Bonjour, j'ai une maladie chronique qui, après m'avoir laissé dans l'incapacité de terminer mes études, m'ôte les forces nécessaires pour prendre soin de moi correctement. Le PCH, prestation compensation d'handicap, me fournirait de l'aide si j'étais incapable de porter une fourchette à ma bouche, mais me prive de tout soutien ménager, préparer des repas et les apporter au lit où j'ai dû passer la majorité du temps cette dernière décennie. Je fais appel à vous pour crier haut et fort votre indignation pour toutes les personnes de moins de 65 ans comme moi en perte d'autonomie. Nous avons créé un site web avec des lettres modèles à copier et envoyer aux élus afin de faire du lobbying. Nous sommes par définition incapables de manifester, car nous ne pouvons même pas subvenir à nos propres besoins quotidiens. L'adresse du site est www.pchménage.wordpress.com. En minuscule, sans accent et tout attaché, pchménage.wordpress.com. Johanna de la Drôme.
Bonjour, je m'appelle Denise Rose, je suis présidente d'une association Les Cahiers de l'Avenir camerounais à Brive-la-Gaillarde. J'organise une soirée le 26 avril 2014 et accompagnée du chanteur Petit Pays. Donc je voulais passer ce message à tous les auditeurs et auditrices de la chaîne là-bas, si je suis.
Salut aux AMG de Séville, demain on se réunit au Café Repère Bar Alpha Kéké, Calle San Vicente, et on parlera du langage politiquement correct. Voilà, à demain, ciao.
Bonjour là-bas, si j'y suis, je voulais vous signaler que les candidats du Front National et leurs représentants, M. Atem, faisaient l'éloge du maréchal Pétain à la sortie du métro Saint-Paul, à 50 mètres de la synagogue et environ 300 mètres du mémorial de la Shoah. Ça a donné lieu à une altercation assez brutale. Merci, je suis François-Marie Antonioz, fils de déporté. Au revoir.
L'adieu. En guise de cadeau d'adieu, elle m'avait laissé la belle, une petite culotte bleue décorée de fines dentelles. Glissée dans cette lingerie, une simple carte de visite sur laquelle elle avait écrit « Désolé mon vieux, je te quitte ». Je l'ai enlevée tant de fois cette soie pour ton seul plaisir. Désormais, tu fantasmeras comme un con sur un souvenir. C'était le poète culotté. Salut.
Rastaquer, cucurbitacé, concupiscent, bon, tout ça c'est bien gentil, mais le pire, c'est quand même suspect.
L'expression autodéfense intellectuelle, c'est une expression de Chomsky. Chomsky dit quelque part que si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. Parce que le langage est un outil magnifique et permet de s'exprimer de manière claire, de transmettre des idées et d'échanger. Mais c'est important de voir aussi que cette réalité-là a son inverse, qui est de savoir qu'on peut tromper avec le langage, qu'on peut présenter des visions déformées du réel, des visions partielles du réel. On peut commettre des erreurs de raisonnement assez facilement. Personne n'est à l'abri de ça. Donc le petit cours d'autodéfense intellectuelle s'ouvre sur un chapitre où j'essaie de donner à mes lecteurs des outils d'autodéfense intellectuelle liés au langage. Ça, c'est le premier chapitre. Chomsky dit, si on avait un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle? Fort bien. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Que comprendrait un tel cours? Et je me suis amusé à essayer d'en écrire un, tu vois, c'est-à-dire de développer les outils qui me semblaient indispensables pour assurer son autodéfense intellectuelle.
Salut, c'est Daniel Mermel, ben, si j'y suis avec Guy Vanctil et Normand Baillargeon. Petit cours d'autodéfense intellectuelle.
Flight number 2, arriving from...
Il y a une chose à laquelle tu te réfères pour qu'on comprenne un peu dans quel sens ça va. Il y a plusieurs directions dans lesquelles tu vas. Hein. Mais tu te réfères au fameux test sur l'autorité de Milgram, la soumission à l'autorité de Milgram. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots ce que c'était?
Oui, bien sûr. Stanley Milgram, c'est un psychologue social. Et ce qu'il a fait, plus personne ne pourrait le faire aujourd'hui parce que les comités d'éthique des universités interdiraient ce genre d'expérience-là. Mais Stanley Milgram, qui était préoccupé par la question de savoir comment il est possible que des gens dans les camps de concentration aient fait les choses qu'ils ont fait. Et il s'intéressait à la question de l'autorité, plus spécifiquement de la soumission à l'autorité. Alors, l'expérience de Milgram, c'est une expérience extrêmement célèbre en psychologie sociale. C'est une des deux ou trois expériences les plus célèbres. Ou en gros, je donnerai pas les chiffres parce que je voudrais pas me tromper dans les données, mais pour donner une idée aux gens de ce qu'il a fait, c'est que il a mis des annonces dans l'université où il enseignait, disant aux gens, venez participer à une expérience de psychologie sociale portant sur un sujet qu'il annonçait à peu près pas. Les gens se présentaient, ils étaient deux qui arrivaient pour se présenter à l'expérience. Et on leur disait, vous allez participer à une expérience sur les effets des punitions sur la mémorisation.
Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition.
L'un d'entre vous, et là on expliquait bien ça, va être assis dans la pièce ici, et on va brancher sur lui des électrodes, et il va recevoir des chocs électriques. S'il ne réussit pas à répéter correctement des séries de mots que la deuxième personne va lui indiquer, et c'est la deuxième personne qui va donner les chocs électriques. On faisait asseoir une des personnes, on lui montrait les chocs, ce qu'il y en était, on faisait asseoir la deuxième personne, la même chose. Ensuite, on prétendait tirer au hasard qui allait devenir celui qui allait poser les questions et faire mémoriser les mots, et celui qui serait assis dans la chaise et qui devait répéter ses listes de mots.
Premier mot, bleu.
Ciel.
Ciel bleu.
Geste.
Mot suivant, féroce.
Rire féroce.
Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts.
Ceci était arrangé à l'avance. La deuxième personne était de mèche avec Stanley Milgram. Le tirage au sort était bidon et c'était l'autre personne qui était venue, qui n'était pas de mèche donc avec Stanley Milgram, qui allait être celle qui allait donner les chocs. Et la deuxième personne, de mèche avec Milgram, était un comédien payé pour ça, qui allait s'asseoir dans la chaise. Évidemment, il ne recevait pas vraiment des chocs électriques. Il faisait semblant de recevoir des chocs électriques.
C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise.
Gardez votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices.
Et la personne qui administrait les chocs avait devant elle un cadran qui indiquait l'intensité des chocs et qui indiquait ce qui pouvait se passer lorsqu'on donnait des chocs de ce douleur extrême, douleur extrêmement grande, jusqu'à danger de mort, mort, voyez-vous. Et il commençait à demander à la personne de répéter les mots qu'il lui indiquait. Lorsque la personne se trompait, il donnait des chocs. Il devait progressivement augmenter. Et ce que Stanley Milgram a découvert, c'est que, en raison de la présence d'une personne de l'université, dans une blouse blanche, qui avait un script à répéter, qui répétait seulement un certain nombre de phrases, du genre...
Je vous prie de continuer, monsieur Despaul.
Vous pouvez continuer, vous devez continuer. L'expérience demande que vous continuez.
Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despaul.
L'université vous couvrira, des phrases de ce genre-là.
Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts.
Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner.
Je prends sur moi toute la responsabilité.
Si vous prenez la responsabilité...
Un nombre absolument considérable de gens allaient jusqu'à administrer des chocs qui auraient causé la mort de la personne qui était dans elle.
En moyenne, 63% des sujets sont obéissants. C'est-à-dire qu'ils acceptent totalement le principe de l'expérience. Et vont jusqu'à 450 volts.
Ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les deux tiers de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure.
Alors, c'est une expérience classique de psychologie sociale sur la soumission à l'autorité et qui nous met en garde, je pense, contre le fait qu'on est susceptible, simplement parce qu'on est réceptif à l'autorité, de commettre des choses qu'on ne commettrait pas si on était plus critique envers l'autorité.
Je vais être obligé de vous envoyer 405 volts. Alors, faites un effort.
Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir?
En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un état tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le millionième maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable.
Je parle avec mes amis qu'un jour on va changer le monde, mais au fond nous-mêmes on est tous des chokeux. Y'a personne qui ose le dire d'avance. On préfère parler autour d'un verre de vin, d'une bière, que d'aller à l'autre bout du monde puis de donner vraiment de soi. On a des solutions sur le bout de la langue, on a des idées intellectuelles, des concepts qu'on a déjà lus quelque part et une opinion plus précieuse qu'un diamant de conflit. On est fort dans nos appartements retranchés. Qui oserait vraiment quitter ce monde confortable, franchir la barrière pour aller sur le terrain et puis aider les gens avec nos mains? C'est facile de juger, de régler les problèmes quand ce ne sont que des mots qu'on lance dans les airs et qui rebondissent sur les murs. On a de l'avenir devant soi et un cocon chez soi. On aime croire qu'on deviendra pas crouton, qu'on fera pas comme la génération avant nous. Non, nous on est plus wise qu'on se dit. On va recycler nos idées pendant des années, devenir cons jusqu'à la répétition et mourir sans rien comprendre. Gaspiller notre salive et enculer des mouches, la belle masturbation pour le cerveau. On sait comment fonctionne la vie, ses subtilités, mais ce qu'on n'est pas encore marié et qu'on n'a pas encore d'enfant. On est jeune et fringant avec nos cheveux dans le vent. On a juste des petites responsabilités à court terme, pas grand chose dans le garde-manger. On aime penser qu'on est pauvre avec nos 3 ordis, parce qu'il y aura toujours plus riche que soi pour se comparer. On croit en un monde meilleur avant la fermeture, où l'espérance de vie devrait être partout la même. Mais l'on sait très bien qu'on peut continuer de vivre même mort.
Hey, tiens, la grande, ici, v'là 2 piastres, là. Va nous acheter 2 capotes dans la distributrice, qu'on le fasse des 2 bars.
Ah, ça, ça n'a pas passé,
non,
ça.
Non, je sais pas le...
T'es tombé sur une mauvaise. C'est vraiment pas toi.
C'est pas moi, hein.
C'est bon, t'es tellement...
Et voilà, on est tombé sur les bigards québécois. Et on arrive à Québec, on a rendez-vous avec Normand Baillargeon dans un café-bar très sympathique qui s'appelle L'Agité, qui est un bar associatif qui est rue Dorchester à Québec. Et là, il y a voilà, on va prendre un pot là et discuter avec l'auteur donc du petit cours d'autodéfense intellectuelle. Je signale l'éditeur, c'est Luxe, l'éditeur, mais on le trouve très couramment, hein, c'est un éditeur québécois, mais on trouve le bouquin un peu partout maintenant en France, donc avec Normand Baillargeon. Mais sur cette histoire de comment se défendre de nos propres perceptions aussi, très souvent, il y a cette petite histoire. 4 hommes visitent l'Australie pour la première fois. En voyageant par train, ils aperçoivent le profil d'un mouton noir qui broute. Et le premier homme en conclut que les moutons australiens sont noirs. Le second prétend que tout ce que l'on peut conclure est que certains moutons australiens sont noirs. Le troisième objecte que la seule conclusion possible est que, en Australie, au moins un mouton est noir. Et le quatrième homme, un sceptique, conclut : il existe en Australie au moins un mouton dont au moins un des côtés est noir. Voilà, différentes sortes de perceptions. C'est drôle, non ? C'est un Raymond Chevalier qui a écrit ça dans un bouquin qui s'appelle « Québec sceptique ». Et c'est drôle parce que c'est les perceptions que nous avons. Vous vous situez, vous vous reconnaissez peut-être dans l'une de ces perceptions. Et c'est ce qu'on a évidemment quotidiennement quand on fait une émission comme celle-là. Dans les messages que vous nous renvoyez, on voit qu'il y a différentes façons de percevoir ce que nous disons. C'est très banal ce que je dis. N'empêche que entre le message émis et la perception, il y a des manipulations possibles, intentionnelles ou pas d'ailleurs, qu'il s'agit de tenter au moins de contrôler et d'en avoir au moins la conscience, ce à quoi s'efforce Normand Baillargeon que nous retrouvons au Café L'Agité. Alors, dis-nous quelques exemples de ces manipulations et comment on peut y résister.
Grosse question, monsieur Maire, mais vous en posez toute une là. Écoutez, par exemple, il y a un chapitre sur les mathématiques dans le livre, OK? Et je sais que beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez ça en France, chez nous, on appelle ça des mathophobes, ceux qui ont la phobie des mathématiques. Alors, il y a des gens, dès qu'ils voient des chiffres, ils partent à courir. Dès qu'ils voient des équations, ils s'enfuient. Ça, je pense que c'est une grave erreur. Parmi les façons de résister à la propagande, parmi les façons de résister à la désinformation, il y a de faire un tout petit peu de mathématiques. Ça, c'est un exemple simple. Dans le livre, j'explique un peu une notion de probabilité puis de statistique. C'est sûr que c'est indispensable à connaître pour tout citoyen. Les profs de maths en France devraient monter un cours de mathématiques citoyennes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais juste l'arithmétique élémentaire, celle que vous et moi connaissons, ça peut être utile. Par exemple, si on vous indique des données chiffrées, prenez donc le temps de compter pour vous demander si c'est possible. Alors, un exemple que j'aime à donner, c'est que dans un colloque universitaire, un professeur d'université indiquait que 2000 enfants à l'heure mouraient en Irak du fait des sanctions des États-Unis à cette époque-là. Quand on a un chiffre comme ça qui est donné, c'est facile de compter. Tout le monde est capable de multiplier 2000 par 24, par une année, 365 jours dans une année, et se rendre compte qu'on arrive à ce moment-là, les sanctions contre l'Irak étaient abominables, le nombre de morts que ça a causé est indéniable. Chez les enfants, tout le monde l'a confirmé quand on l'a pu voir. Mais là, tu arrives à un nombre qui est tellement élevé que c'est plus grand que la population totale de l'Irak, que le nombre d'enfants qui mouraient à chaque année ou à chaque deux ans est tellement gigantesque que c'est incroyable. Et pour découvrir ce genre d'erreur là ou de faute là, il suffit de compter lorsqu'on nous donne un chiffre. C'est moi donner un deuxième exemple. Une des choses que je trouve les plus utiles et qui est extrêmement facile à utiliser, c'est ce que j'appelle la donnée détachée ou semi-détachée. Ça veut dire qu'on nous donne un nombre et ce nombre-là se rattache à rien. On peut pas voir à quoi ça se rattache. 80% des gens préfèrent tel type de chocolat. Quel 80%? Ça s'applique à quoi, 80%? Est-ce que c'est 8 personnes sur 10, 80 sur 100, 800 sur 1000? Voyez-vous, on a souvent comme ça des données chiffrées qui nous sont lancées et qui sont des données détachées parce qu'ils se rattachent à rien ou semi-détachées. Alors, portez une attention à ça. C'est pas très difficile, vous voyez. Il suffit d'allumer ce que j'ai appelé dans le livre son détecteur de poutine. Tu vois, tu mets en marche...
Détecteur de poutine.
Oui, c'est ça. En québécois, on dirait de la poutine, tu vois. Des stupidités, des niaiseries, des choses impossibles à avaler, tu vois. Et il faut allumer son détecteur de poutine. Alors, encore une fois, devant des données chiffrées, se demander... À quoi réfère exactement cette donnée chiffrée qu'on est en train de nous balancer? Refaire le calcul soi-même, souvent des choses aussi simples que ça sont suffisantes pour susciter le doute devant ce qu'on nous a présenté comme données chiffrées. Une autre chose, évidemment, toute simple aussi, il y a des choses plus complexes dans le livre, mais je vais en donner des toutes simples pour être compris immédiatement. Se demander qui a compté. Alors, ça a l'air de rien, ça, mais d'où vient le chiffre? Comment on l'a compté? Si une donnée chiffrée présentée, c'est parce que quelqu'un a compté. Alors, qui a compté? Comment s'y est-il pris pour compter? Et à quel résultat est-il arrivé? Ce sont des questions pertinentes à poser sur des données chiffrées.
Indice opinion.
Plus 6%.
0,5%.
Plus 0,5%.
0,5%.
13,5%.
51% des intentions de vote selon un sondage CSA France Info.
Par 50,5 contre 49,5.
C'est une progression de 5 points par rapport à la précédente enquête.
Des sondages qui font couler beaucoup d'encre. 52% des voix contre 48.
Par 50,5 contre 49,5.
48% d'hommes, 53% de femmes, contre 52% de femmes.
Voilà, on continue avec Normand Baillargeon et son petit cours d'autodéfense intellectuelle. On est à Québec, dans le café L'Agité. Tu as évoqué rapidement la rhétorique. Il y a tous les systèmes, des syllogismes, des paralogismes aussi, qui permettent d'embrouiller
Oui, c'est ça. Dans la première partie du petit cours d'autodéfense intellectuelle, je consacre un chapitre au langage et une partie de ce chapitre-là porte d'abord sur les mots. Alors, les mots eux-mêmes, c'est intéressant de s'y arrêter. Et la deuxième partie, vous avez raison, porte cette fois-là sur les raisonnements, sur les sophismes et les paralogismes. Hein. C'est, il y a des raisonnements qui sont valides, puis il y a des raisonnements qui sont invalides. Alors, c'est intéressant de savoir ça, puis je pense que tout citoyen, tout penseur critique, toute personne qui veut assurer son autodéfense intellectuelle devrait connaître un certain nombre de ces stratégies-là, tu vois. Le langage permet de dénoter des objets, mais il permet aussi de connoter des objets. Alors, on peut, par un mot, renvoyer à, par exemple, un objet dans le monde, mais on peut aussi, en utilisant tel ou tel mot, on peut aussi colorer cette référence-là. On peut aussi, par le langage, donner une dimension majorante à quelque chose, ou une dimension minorante à quelque chose, ou une dimension plus neutre à quelque chose. Et c'est important de faire attention au choix des mots qu'on utilise pour nous parler, voyez-vous? Parce que, évidemment, le langage politique est particulièrement propice à ces choses-là. Hein. Remarquez le langage qu'on emploie pour nous parler des guerres, des frappes chirurgicales. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense 10 secondes, ça, dans le, voyez, l'expression frappe chirurgicale. Alors, quand on emploie l'expression perte collatérale, par exemple, des pertes collatérales, c'est la mort de civils innocents. Des frappes chirurgicales, est-ce que ça a du sens d'employer une expression comme celle-là pour désigner les bombardements intensifs qui sont faits? Pas toujours. Alors, vous, et jamais, en fait. Et donc, il est important de faire attention au choix des mots qu'on utilise pour nous parler de la réalité. Je pense que quelqu'un qui veut assurer son autodéfense intellectuelle devrait être en mesure.
Alors là, les mots dont tu parles, ils sont créés intentionnellement.
Ceux-là, ils sont tout à fait créés intentionnellement.
Comment ils se fabriquent? Est-ce qu'il y a quelque part un atelier, des bureaux où on fabrique ce langage-là?
Il y a effectivement dans nos sociétés des endroits où on fabrique ces langages-là. J'en donne des exemples dans le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Lorsque, dans les années 90, tu vois, fin des années 90, les organismes génétiquement modifiés passaient mal auprès du grand public, tu vois, des firmes de relations publiques ont été engagées pour essayer de passer le message, pour essayer de faire en sorte que le message passera mieux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un travail sur le langage. C'est-à-dire, ils ont vraiment délimité un champ sémantique de mots à connotation positive qu'il était utile d'employer. Si je donne des exemples, nature, naturel, etc. Et des mots qu'il était interdit d'employer pour discuter de la réalité des OGM, tu comprends? Parce que ces mots-là avaient des connotations négatives chez les gens. Alors ça, pour le savoir, ils ont fait des enquêtes auprès des gens. Ils leur ont décrit les organismes génétiquement modifiés en utilisant un certain type de vocabulaire, puis un autre, et ils ont regardé les réactions des gens. Ils ont été en mesure de déterminer quel type de langage Monsanto, par exemple, devait employer dans ses publicités, dans ses communications avec les gens, pour susciter une adhésion plus positive ou une vision plus positive de leur objet. Donc, vous avez raison, il existe aussi des gens dont le métier consiste à choisir ces mots qui permettent de communiquer avec l'opinion publique. D'où l'importance de faire attention aux mots.
Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature.
Tiens-les bien, tes mots. Lâche-les bien, tes mots. Les mots mordent, les mots tuent. Tu les cherches, tes mots. Ils se perdent, les mots, dans une voie sans issue. Je les gomme, tes mots. Je les digère, salaud. Je les mâche, tes mots crus. Mais ils m'agacent, ces mots. Me tracassent, c'est trop. Je les efface.
Donc on en était, cher Normand, dans ce petit cours d'autodéfense intellectuelle. Finalement, il y a une chose à quoi on pense tout au cours de la lecture, c'est à la Boétie.
Ah oui.
On pense à la Boétie.
Ils sont grands parce que nous sommes à genoux.
Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Voilà, c'est-à-dire que cet asservissement à la propagande et cet asservissement aux manipulations de toutes sortes, et tu donnes ces sortes de manipulations, l'une des raisons pourquoi ça fonctionne, c'est que nous sommes enclins à la servitude.
les formes de domination varient selon le type de société dans laquelle on se trouve. Tu vois? Et le type de domination qui existe dans nos sociétés est absolument différent du type de domination qu'on peut retrouver dans une société totalitaire ou dans une société antidémocratique. Dans une société comme la nôtre, le consentement des gouvernés est extrêmement important. Et c'est pourquoi la phrase de la Boétie est pertinente. C'est-à-dire qu'il est important que les gens aient intériorisé des mécanismes, des visions du monde, des manières de penser qui sont conformes à ce que les intérêts des élites présupposent. Donc, on accorde dans nos sociétés une immense importance à cette liberté sous domination. C'est comme ça qu'on aurait envie de l'appeler. Alors, les gens peuvent... La liberté, c'est de faire tout ce que permet la longueur de la corde, tu vois. Mais il est important que la longueur de la corde soit bien fixée, tu comprends, pour que les balises soient précises. Alors, ce qui fait que nos institutions dominantes, dans lesquelles nous vivons, dans nos démocraties libérales, nos institutions dominantes apportent un très, très grand soin à contrôler le discours, à contrôler le débat, à contrôler les termes dans lesquels les discours se tiennent, les solutions possibles envisageables. Et cette façon de cadrer le discours, bien, Chomsky, comme tu sais, a fait un très important travail dans cette direction-là. Et il a sorti, et puis j'en rappelle quelques-uns aussi, moi, dans le petit cours d'autodéfense intellectuelle, il a montré comment ce travail-là est une composante extrêmement lourde de l'histoire de nos sociétés. Alors, comment dans nos sociétés, on a de très longue date des institutions qui sont spécifiquement vouées à ce travail sur l'opinion, à cette cristallisation de l'opinion publique, pour prendre l'expression de Edward Bernays, dont je parle dans le livre et d'autres, tu vois.
Mais justement, alors, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de Bernays. Montre-nous comment Bernays nous a bernés.
C'est très joli. On a été bernés par Bernays. Edward L. Bernays était né en 1891, par là, tu vois, et il est mort en 1995. Alors, il a vécu 103, 104 ans, ce monsieur-là. Et il est un des principaux créateurs de l'industrie des relations publiques. Alors, cet homme-là va être porté par la commission Creel. C'est à ça qu'il faut faire référence d'abord. Lorsque la Première Guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de commission Creel, du nom du journaliste, M. Creel, qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés et d'institutions qui vont... y naître. Alors, des gens comme Lippmann ou Bernays sont issus de cette mouvance-là. Et Edward Bernays, donc, va sortir de là et à partir des années 20, va mettre sur pied l'idée de firme de relations publiques. Voilà.
Est-ce qu'il y a des femmes qui fument parmi vous? Oui, les femmes. Oui,
c'est,
oui.
C'est rendu très mal vu.
Tu fumes? Non, il y en a au moins une.
Il y a une raison pour laquelle il est fait, parce que Bernays est un de ceux qui va...
On va te dire pourquoi tu fumes. Pourquoi?
Edward Bernays va mettre les pratiques et les techniques qu'il a inventées, il va les mettre au service de ceux qui sont disposés à payer pour ces bons services. Tu vois? Et à un moment donné, la compagnie Lucky Strike va venir le voir. Tu vois? Vous connaissez encore cette marque-là, il y a encore des cigarettes Lucky Strike. Et on va demander à Bernays de corriger le problème suivant. Voici le problème. Avant la Première Guerre mondiale, les hommes avaient plutôt tendance à mâcher du tabac, tu vois, à mâcher du tabac. Pendant la Première Guerre mondiale, les compagnies de tabac américaines vont envoyer aux soldats des paquets dans lesquels il y a des cigarettes. Ce qui fait qu'après la guerre, dans les années 20, les hommes fument. C'est devenu acquis. Par contre, les femmes ne fument toujours pas. Et c'est socialement mal vu pour les femmes de fumer, surtout en public, tu vois, surtout en public. Alors, Bernays, on lui soumet le problème. On lui demande de corriger ce problème-là, parce qu'évidemment, il y a la moitié du marché à les conquérir, tu vois. C'est vrai. Et savez-vous ce qu'il va faire? Et voilà un exemple de travail qu'il faut connaître, d'événements qu'il faut connaître. Il était le double neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays. Neveu par... oui, c'est vrai, il était doublement le neveu de Sigmund Freud. Par son père et par sa mère. Donc, il était doublement neveu de Sigmund Freud. Et son travail peut se comprendre en référence à Freud. C'est-à-dire que l'opinion publique, elle est là, ils ont des pulsions, des passions, ça résonne pas trop. Et il faut travailler ça, cristalliser ça, puis faire adhérer aux choses qu'on a décidé que le public devait croire. Alors, par exemple, pour la cigarette, Bernays va se rendre compte que beaucoup de gens sont accueille avec sympathie la cause des femmes, des suffragettes, de la liberté des femmes. Et il va jouer là-dessus pour amener les femmes à fumer. Et là, en 1929, lors de la fameuse Easter Parade à New York, il va couler des informations dans divers journaux et un peu partout, disant qu'un groupe de femmes, certaines d'entre elles étant connues, les actrices, etc., vont poser un geste d'éclat pendant la parade de Easter à New York, tu vois. Quel est ce juste d'éclat-là? Bien, évidemment, il a tout coordonné, hein, il a tout planifié, il a payé ces gens-là, et marchant à New York pendant la parade de Pâques, certaines femmes, et là, les journalistes les attendent, le lendemain, ça va être dans tous les journaux en première page, sortent des cigarettes et les allument et les appellent des flambeaux de la liberté. Torches of freedom. C'est assez fort, hein? Torches of freedom. Alors, donc, Bernice va...
Ça fait drôle, hein? Petit malaise.
Voilà, donc... Et Bernice, donc, l'industrie des relations publiques, c'est quelque chose d'important à connaître, c'est pour prendre le pouls de l'information, de sa circulation dans des sociétés comme la nôtre. Tu vois. Aux États-Unis, les derniers chiffres que j'ai vus citaient que 125 000 personnes travaillaient dans l'industrie des relations publiques aux États-Unis. C'était plus que le nombre de journalistes au pays.
Places all. All join hands, circle left. Now circle right and listen to me, LS, LS, MFT. Alan, bend your corners like swinging on a gauge. A right to you, honey, with a right to left eight. Grand right and left around you go. Lucky strike means fine tobacco. Promenade and don't you fall. Promenade around the hall. Lucky strike is first again with tobacco men. Promenade straight down the pike. It's time right now for a lucky strike. Yes, for smoking that you're bound to like, you just can't beat a lucky strike.
Lucky Strike means fine tobacco. C'est une pub pour Lucky Strike, pour les cigarettes Lucky Strike. Prends ta chérie par la main et fais la tournée. Lucky Strike pour les hommes les plus forts. Comment on nous a fait fumer? Comment on a fait fumer les femmes? Il faudrait aussi sans doute parler à la libération en France. Comment justement cette marque de cigarette-là a été offerte généreusement à la population française. On voit toutes ces manipulations. On est toujours avec Normand Baillargeon pour son petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et il y a aussi, parmi les manipulations dont nous pouvons être l'objet, nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes, qui nous manipulons, qui nous auto-manipulons. Pour entrer dans ce chapitre-là, il y a une petite phrase de Nietzsche qui dit ceci. « J'ai fait cela, dit ma mémoire, c'est impossible, dit ma conscience, et c'est ma mémoire qui cède. » Parmi la façon dont cette désinformation nous gagne et nous domine, il y a aussi par nous-mêmes, hein, on a évoqué la Boétie, mais il y a aussi notre propre appréciation, notre propre façon de nous référer à nous-mêmes pour comprendre le monde autour de nous, qui peut être tout à fait faussée. C'est-à-dire que si on ne se fie qu'à notre propre perception, on peut tout à fait s'auto-désinformer, si on peut dire.
Oui, c'est vrai. Il faut se méfier de soi-même. Puis comme je le dis dans le petit cours aussi, s'il y en a qui l'ont lu, il faut se méfier des auteurs de petits cours d'autodéfense intellectuelle. Ça, je tenais à dire.
Oui.
Non, mais effectivement, le recours à l'expérience personnelle est quelque chose qui... Vous savez, on tend facilement à valider par l'expérience personnelle nos croyances, comprends? Et on prend pas suffisamment le temps de se rendre compte que notre expérience personnelle peut être trompeuse. Et là, c'est une leçon importante de psychologie que de savoir ça, tu comprends? On peut très facilement se tromper. Je raconte un truc, peut-être que vous le croirez pas, mais chez vous, sur Internet, vous pouvez aller le voir. Un professeur de psychologie récemment a fait une vidéo, on mettra en ligne, si vous voulez, l'adresse du vidéo, vous pouvez aller le voir, vous arrivez là, et vous dites à votre ami, tiens, à toi par exemple, mon cher Christian, tu vas regarder ce vidéo-là qui dure 45 secondes à peu près, et dans le vidéo, tu vas voir deux équipes de joueurs, des équipes qui sont vêtues d'un t-shirt blanc, des équipes vêtues d'un t-shirt noir. Chacune des équipes a des ballons de basketball et ils se font des passes, OK? Ils se font des passes par le sol ou ils se font des passes de main à main. Je veux que tu comptes le nombre de passes que se feront de main à main ou par le sol les membres de l'équipe des Blancs et les membres de l'équipe des Noirs. Ça va? Toi ou un ami va regarder cette vidéo-là, tata. Puis là, très vite, tu vas dire, ah, je suis mélangé, j'arrive plus, je perds le compte, c'est compliqué, gna gna gna. À la fin du vidéo, qui dure moins d'une minute, tu demandes à ton ami, que faisait le gorille? Et ton ami dit, il n'y a pas de gorille. Et tu dis, attends, on va le refaire. Et on remet le vidéo. Et là, tu vois les gens se faire des passes. Et à un moment donné, tu vois arriver en scène devant la caméra un homme très grand, vêtu d'un costume de gorille noir. Et il se met en plein milieu et il se tape sur la poitrine. Et il te fait des babayes et il s'en va. Et personne ne le voit. Personne ne le voit. Et vous savez pourquoi personne ne le voit? Personne ne le voit parce que la tâche à laquelle on est attelé est tellement complexe et on est tellement mobilisé dessus qu'on construit notre perception. Alors, notre perception, elle est construite et on tend très, très souvent à l'oublier, ça. Alors, dans le petit cours, il y a plusieurs exemples comme ceux-là pour montrer que notre perception directe, notre mémoire aussi, l'appel à notre mémoire peut être profondément trompeur. Et vous avez raison de dire que notre expérience personnelle peut être trompeuse dans ce sens-là. Mais il y a un deuxième sens aussi, Daniel, où on pourrait dire que l'expérience peut être trompeuse, c'est que si on se fie uniquement à ce qu'on vit autour de nous pour juger de l'ensemble de notre société, on a une vision souvent extrêmement limitée, tu comprends? D'où l'expérience, l'importance d'avoir des relations avec d'autres, de discuter avec d'autres. Et moi, je pense profondément qu'une des raisons pour lesquelles le militantisme n'a pas tout le succès qu'on souhaiterait, c'est que notre société a réussi à nous isoler, à faire en sorte qu'on est chacun de notre côté. On regarde la télé tout seul chez soi le soir, tu vois, et il nous arrive de penser que, oui, peut-être que ça n'a pas tout à fait de sens ce qu'on nous dit là, mais étant seul, on n'arrive pas à discuter, à échanger avec d'autres. On est limité à notre propre expérience, tu comprends? Alors donc, non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur le plan de la vie politique. La sphère du politique suppose qu'on fasse ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on soit ensemble en train de discuter et qu'on puisse échanger avec d'autres, recevoir le point de vue des autres. Et une des forces de notre système de propagande, je pense, c'est de nous avoir isolés à un point où c'est devenu très rare que d'avoir ce type de rapport-là.
On a parlé tout à l'heure ensemble de l'expérience de Milgram que vous connaissez peut-être, mais vous la retrouverez dans le livre. Il y a une autre expérience dont tu parles, c'est l'expérience de H.
Oui.
C'est le phénomène du conformisme. Comment nous nous conformons à ce que font les autres et à ce que disent les autres? On ne sait pas trop quoi penser. Et alors, on dit, si tout le monde pense ça, ça doit être comme ça qu'il faut penser, donc je vais penser comme ça. Si c'est comme ça que tout le monde agit, je vais agir de cette façon. Est-ce que tu peux rappeler l'expérience
oui,
de H?
L'expérience de H, avec l'expérience de Milgram, c'est une des grandes expériences de psychologie sociale. Alors, H s'est demandé quel était l'effet de notre propension à vouloir nous conformer à ceux qui sont autour de nous. Il a, en gros, organisé l'expérience suivante, c'est que, évidemment, c'était arrangé avec lui, mais quelqu'un se présente pour participer à une expérience de psychologie de la perception. On projette sur un écran, mettons, trois lignes, tu vois, et on demande laquelle est la plus courte, tu vois. Alors là, tu es dans la salle, puis il y a plein de gens autour de la table qui sont avec toi. Tu es le sujet d'expérience. Les autres sont des comédiens qui ont été embauchés pour participer, tu vois. Et là, tu dis, il y a la ligne A, B, C, on me demande laquelle est la plus courte, c'est à l'évidence C, tu comprends? Et là, les gens commencent à parler autour de la table et ils disent B. Et là, la question est de savoir, quand ça arrive à toi, qu'est-ce que tu vas répondre? Quelle influence ceci va avoir sur ce que la personne va dire? Tu vois? Et ce que là, je trouvais, c'est qu'il y a une très forte propension au conformisme qui va faire que là, on va nier ce qu'on avait conclu d'abord pour se conformer au jugement des autres. Sans doute que ça joue un rôle aussi dans l'explication de certaines de nos croyances, certains de nos comportements. Alors, de la même manière que l'expérience de Milgram est une leçon qui nous invite à nous méfier de l'autorité, on peut très facilement faire des choses horribles parce qu'on a trop de respect pour l'autorité, puis on cesse de penser devant une autorité qui nous apparaît crédible. De la même manière, des fois, on a tendance à être tellement conformiste qu'on renonce de penser aussi par conformisme.
Le poulien en faux acte de présence, lourde présence. Pourtant, il ne participe jamais vraiment. On participe seul et j'accuse la foule de ne pas être un élément. Les fouliens sont bavards, mais leur bruit, leur vent, leur tempête ne dit jamais rien. Brouillard de mots qui dans ce désordre ne manifeste que du vide sous un air de trop-plein. Les fouliens se croisent, se frôlent, se touchent, mais ne se mêlent pas. Rapprochés, oui, si bien rapprochés, mais de par l'esprit étroit de chacun pour soi. Les fouliens. Les fouliens sont habiles pour la fluidité, la vitesse, la fuite et l'esquive. Toujours en mouvement, mais pour fuir sans cesse une civilité oppressive. Les fouliens ne combattent pas pour leur liberté. Non, c'est l'individu qui combat pour ça. Une foule, ce n'est déjà plus qu'une foule. Mais passons. De toute façon, le fouléen ne connaît pas la honte, non. La honte appartient à l'intimité, pas à l'escadron. Alors le fouléen, lui, se complaît dans la masse, dans l'escadron, car il y est en nombre, et le nombre a toujours raison.
Alors, parmi les moyens les plus certains, je dirais, de nous réduire et de nous désinformer, il y a évidemment les médias, ça, on en a parlé. Il y a aussi la science. Il y a aussi le prestige scientifique. On a tous en tête ces publicités pour des dentifrices où on voit le scientifique qui arrive avec sa blouse blanche et qui nous dit voilà ce que vous devez prendre parce que dedans, il y a tel ou tel, tel ingrédient sur lequel dont on n'a jamais entendu parler. Il y a des rayures vertes qui sont bonnes, des rayures rouges qui sont encore meilleures, etc. Mais il y a ce type, il y a le scientifique avec sa blouse blanche. Oui, l'effet d'autorité.
Tout à fait. Il est mesuré, puis il est connu, cet effet d'autorité-là. Puis tout le monde a l'expérience de ça. Il n'y a presque pas un produit. Vous avez cité la brosse à dents, mais les shampoings et tout le reste, ça nous est toujours vendu par des gens en blouse blanche. Parce qu'effectivement, il y a un halo d'autorité qui est transféré avec ça. Et c'est évidemment pour essayer de jouir ou de tirer vers soi le prestige de la science. Ça, c'est un danger énorme. Puis l'autre danger, je pense, en plus de celui-là, c'est le danger des pseudo-sciences. Alors, il y a aussi massivement présentes dans nos sociétés, des croyances profondément irrationnelles. On peut se demander pourquoi les gens y adhèrent tellement. Et je pense que là, il y a une carence de connaissance de la science, hein, parce que la science reste le meilleur moyen de connaissance que l'humanité a développé, tu comprends? Et avoir une culture scientifique qui permet de repérer ces gens qui viennent simplement en blouse blanche, puis ils nous disent 80% des gens préfèrent la pâte dentifrice XY ou Z, tu comprends? Pour se rendre compte que le fait qu'on nous dit que la pâte dentifrice XY ou Z possède le schplung-plung meilleur, ça rend pas le schplung-plung réel. Ça. Et 80% des gens, encore une fois, ça peut signifier rien du tout. Ça veut dire 8 personnes sur 10, tu as interrogé les 8 personnes qui travaillent dans la compagnie plus 2 autres, tu comprends? Donc, une connaissance de la science, de sa manière de fonctionner, une connaissance minimale de la philosophie des sciences me semble extrêmement utile pour être mise en garde devant ça. Il y en a un peu dans le petit cours, oui.
Ce serait quoi votre source de solution dans ce contexte justement mondial qui... Ce serait quoi les guides ou les barèmes?
Honnêtement, il n'y a pas de garantie là-dessus. Hein? Je pense que si tu cherches...
Donc, vous n'avez pas trouvé la réponse?
Ben, c'est-à-dire que j'ai des espoirs, moi, tu sais, sur ce plan-là. Ta question est vaste. Tu sais. Pour moi, dans ma vie, dans mes convictions, c'est la réponse que donnait Frédéric Douglas. Tu sais. Agitate, tu comprends? C'est-à-dire que devant le monde dans lequel on vit, devant l'état du monde dans lequel on vit, devant ce qui se passe, on n'a pas le choix que d'agir, tu sais, pour essayer de changer les choses. Puis le bonheur, puis l'identité, c'est à trouver dans ces combats-là, puis dans le partage, puis dans la discussion avec d'autres, tu comprends? Faut pas rester chez soi. C'est ça que le système veut, en fait, c'est qu'on reste chez soi. Donc, il faut... travailler à construire notre identité à travers des luttes, des combats, des actions, des choses qui nous plaisent. Hein? Faut faire des choses qu'on aime faire. Moi, honnêtement, j'ai des espoirs. Ils sont connus. Enfin, les gens qui me lisent savent que j'aspire à une société libertaire. Moi, je pense que les grands idéaux qui ont été portés par les principaux anarchistes classiques, Kropotkin, par exemple, tu sais, d'un ensemble d'institutions décentralisées, autonomes, où les gens contrôlent leur vie, contrôlent l'économie, c'est des choses auxquelles je crois. Puis je crois, moi, personnellement, mais c'est un espoir, tu vois, c'est mon espoir à moi. Je crois que ça, c'est particulièrement adapté à une société technologique évoluée comme la nôtre. Je crois à ça. Moi, je suis très intéressé par l'économie participatiste de Michael Albert, tu comprends? Je suis très intéressé par des modèles politiques d'inspiration libertaire, d'autogestion, tu vois? J'ai cet espoir-là, tu comprends? Mais maintenant, pousse-moi pas trop loin pour les défendre à la virgule près, tu comprends? Ça reste un espoir, tu vois? Donc, le petit cours d'autodéfense intellectuelle n'est pas un livre libertaire, c'est certain, mais beaucoup de libertaires classiques ou de libertaires d'aujourd'hui adhéraient aussi à des valeurs ou des positions comme celle-là.
C'était un petit cours d'autodéfense intellectuelle, une nouvelle diffusion d'un reportage de Daniel Mermet et Guy Vanctil. Merci à Normand Baillargeon, merci aussi à Chantal Santerre et à la revue québécoise À Bâbord. À lire sur le sujet, petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, paru chez Lux Éditeur, et Soumission à l'autorité de Stanley Milgram, édité chez Kalman Lévy. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, David Federman et Gaël Braouezek. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chelius, Franck Adhérer et Yann Chouquet, préparée avec Jonathan Duong, et c'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, je peux vous demander pourquoi vous êtes rentré juste vous acheter le livre, mais vous regardez pas l'exposition?
Non, si, l'exposition, on l'a déjà faite hier, en fait. Mais elle était très intéressante et on a voulu revenir pour acheter le livre spécialement.
Ok. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'exposition ?
Les œuvres, le dessin d'Alex Ross est quand même assez particulier. On voit que c'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on peut voir d'habitude. Et le thème de super-héros qui est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, là, voir une exposition vraiment sérieuse sur le sujet, ça fait vraiment plaisir.
Bonjour à tous et bienvenue donc au Mona Bismarck American Center.
Bonjour, je suis Danielle Fortier, la directrice des expositions et programmes ici.
Merci de m'accueillir comme ça à l'improviste. Je suis passé devant votre musée. Et pourquoi il y a une exposition sur les super-héros ici ?
Mais comme dans le pays de France, on adore les bandes dessinées, mais les super-héros sont vraiment américains dans toutes leurs racines. On a décidé de faire une exposition d'un artiste de comic books contemporain. Et le top de top, c'est Alex Ross.
Vous, quel est votre super-héros ?
Préféré ? C'est Wonder Woman, comme toutes les femmes, en fait. On n'a pas beaucoup de choix entre les super-héroïnes. On a Supergirl, Batgirl, Batlady, mais il n'y en a pas beaucoup.
Mon super-héros, là, je dirais que c'est Superman, pour être classique. Parce que j'étudie le cas de Superman au lycée.
Et qu'est-ce qui vous touche dans Superman ?
Je pourrais en parler longtemps parce que j'ai fait 60 pages sur le personnage. C'est plus qu'un super-héros dans le sens où c'est une figure mythologique. C'est aussi pour ça que j'ai acheté le bouquin, il s'appelle Mythologize, pour vraiment ce côté-là. Et il incarne vraiment le super-héros parfait. C'est en quelque sorte le plus fort, le moins faillible, celui qui vraiment, normalement, devrait tout le temps réussir à sauver la situation. Donc c'est une figure rassurante. Et puis il est très lié à l'histoire des États-Unis et ça, c'était vachement intéressant à étudier.
Quel super pouvoir vous voulez avoir ?
N'importe lequel, je pense. Avoir un super pouvoir et pouvoir se démarquer des autres, c'est le rêve de tout le monde.
Je peux vous demander votre âge ?
J'ai 16 ans. En première, on doit réaliser ce qu'on appelle un TPE, c'est un exposé sur un sujet. Et j'ai réussi en groupe avec mes camarades. On a choisi comme sujet Superman et son rapport à la société, son rapport aussi aux ses origines juives et mythologiques, etc., etc.
Pourquoi aux origines juives ? Il était juif, Superman ?
Alors, ses auteurs étaient d'origine juive et ils sont beaucoup inspirés de la mythologie juive pour créer le personnage.
Ce serait Jésus ?
Entre autres. C'est un mélange. Quand ils ont créé, ils auraient mélangé, entre autres, certains éléments de la mythologie de Jésus, du golem protecteur des juifs, certains éléments de la Bible, certains personnages comme ça. Ils auraient mélangé ça avec des personnages de la culture populaire comme Tarzan. Enfin, il y a beaucoup de sources d'inspiration quand ils ont créé le personnage. Et c'est aussi ça qui le distingue de certains autres super-héros qui ont vraiment été créés comme ça. Comme il était le premier, c'est lui qui a inventé c'était le premier super-héros, donc c'est lui qui a inventé le genre aussi. Il a défini les codes du super-héros, en quelque sorte.
Et vous êtes venu voir l'exposition tout seul ou avec votre classe ?
Non, juste avec ma copine, qui m'a gentiment accompagné. Oui. Voilà, mais je suis venu entre autres pour mon devoir, mais non, je suis venu seul de mon côté parce que j'avais vraiment envie de la faire.
Et vous, mademoiselle, vous avez un super-héros ?
Non.
Non. Ça vous touche, les super-héros, ou vous trouvez que c'est des trucs de garçons, ça ?
Non, c'est bien, mais voilà.
Et vous, ne faites pas d'exposé, vous ?
Si, moi, j'ai fait un autre sujet.
Qu'est-ce que c'est, votre sujet, vous ?
Le poison dans la littérature.
Le poison dans la littérature ?
Oui.
Et pourquoi vous avez choisi ça ?
Parce qu'on pensait que ça pouvait être intéressant à étudier, voilà.
Et en étudiant, vous vous rendez compte que c'est aussi intéressant que ce que vous imaginiez ?
Oui. Un peu.
Elle a moins de chance parce qu'elle doit avoir moins d'expositions à Paris que nous, on en a sur les super-héros en ce moment. On en a eu pas mal ces dernières années que sur le poison. Ah, j'ai peur qu'elle ait moins de documentation.
Et je peux avoir votre prénom ?
Antonin.
Bon, Antonin, je vous remercie pour toutes ces lumières sur Superman et je vous souhaite d'avoir un super pouvoir.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et vous, est-ce qu'il y a une œuvre que vous aimeriez avoir pour chez vous ?
Oui, bien sûr, j'ai déjà piqué. Non, non, j'adore toutes les œuvres. En fait, j'aime bien les œuvres en gouache, sont vraiment incroyables. Le raffinement de son technique, ça change de livre, de comics, jusqu'à une vraie œuvre d'art. Donc tout ça, c'est très intéressant. Après, on a des dessinateurs dans les galeries, donc j'aimerais bien vous présenter, en fait, parce qu'on fait un partenariat avec Comicverse et on associe des illustrateurs amateurs. Et vous voyez, on a 4 dessinateurs sur place aujourd'hui pour créer des dessins originaux, expliquer un peu aux visiteurs la différence entre leur art et l'art qu'ils apprécient d'Alex Ross, etc. Donc, en plus de juste les œuvres d'Alex Ross, qui sont déjà pas mal, on a tous les jeudis, samedis et dimanches, des dessinateurs dans les galeries.
Bon, je vais aller voir les dessinateurs.
Oui, ils sont vraiment sympas, géniaux et très talentueux.
Vous êtes français ?
Oui, je suis français, oui.
C'est que moi qui est étrangère, voilà.
Mais d'ailleurs, oui, je voulais vous demander, le Mona Bismarck, c'est quoi ? C'est un lieu privé
À la base, c'est une fondation privée, mais c'était créé par Mona Bismarck, qui est une Américaine née en Louisville, Kentucky, qui est mariée avec plusieurs messieurs finalement, et elle avait des maisons un peu partout, une maison à Paris. Ici, c'était sa maison privée, à Capri, à New York, à Floride, etc. Et à sa mort en 83, elle a créé cette fondation pour renforcer les liens entre la France et les États-Unis grâce aux expositions d'art et culture.
Bon, et c'est pas compliqué, si on veut en savoir plus sur les super-héros, on vient au Mona Bismarck American Center, et jusqu'au 15 juin, on pourra voir les super-héros d'aujourd'hui et d'hier.
Attente Pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Merci.
On pense pas à la Maïf pour réduire son budget familial. Pourtant, moi, par exemple, j'ai gagné 26 000 euros sur le crédit de la maison et 9 000 sur l'achat de la voiture. C'est pas rien. Et ça, sans compter les assurances superflues que j'ai résiliées.
Maïf Famille s'attaque à ce qui pèse vraiment dans votre budget. Rendez-vous sur maïf-famille.fr. Maïf, assureur militant. Économie moyenne pour une renégociation de crédit par Crédit Immobilier Direct, intermédiaire inscrit à l'ORIAS et pour un monospace auprès d'Aramis et Auto-IES.
À Georges.
France Inter présente Aimer, boire et chanter, un film d'Alain René, actuellement au cinéma avec Sabine Azéma.
J'ai l'intention d'aller passer quelques jours à Tenerife.
Michel Villermoz.
Ah, c'est sympa, vous partez tous les deux?
Non.
Hippolyte Girardot.
Qui t'a invité?
Georges.
Georges et Catherine.
Oui.
Et pas toi?
Sandrine Kiberlin.
Catherine ne part pas en vacances avec Georges.
Non.
Caroline Silol.
C'est moi qui l'emmène.
Comment tu le sais?
Mais parce que c'est moi qui pars en vacances avec Georges.
André Dussolier.
Merde, ça ne brille bien.
Retrouvez Aimer, boire et chanter à 18h dans Jour de Fred.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
France Inter et les Gémeaux, scène nationale de Sceaux, présente du 27 mars au 6 avril La Vipère, la dernière mise en scène de Thomas Ostermeyer avec les acteurs de la Schaubühne de Berlin. Pièce de l'auteure américaine Lillian Hellman, La Vipère est une œuvre sur le pouvoir corrupteur de l'argent, son rôle délétère dans la société, finissant par broyer Regina, épouse à qui tout semblait réussir, mais qui rêvait d'une nouvelle vie indépendante, loin de sa famille, de son mari et de sa fille. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, très bonne journée à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité avec Aurélie Bambuc.
Le gouvernement doit entendre les Français et en tirer une leçon. Propos de François Hollande, rapporté par Najat Vallaud-Belkacem à l'issue du Conseil des ministres. Le dernier avant un possible remaniement après le second tour des municipales. Les 38 membres du gouvernement de Jean-Marc Ayrault ont tenté de faire bonne figure trois jours après les mauvais résultats des socialistes. On travaille, a sobrement commenté le Premier ministre. Dans cet entre-deux-tours mouvementé, les chiffres du chômage s'invitent dans le débat. Ils sont publiés à 18h et concernent le mois de février après un mois de janvier record. Conséquence du désaveu de la majorité lors des municipales, le report du voyage officiel du Premier ministre tunisien. Il devait rencontrer François Hollande et Jean-Marc Ayrault lundi et mardi prochain à Paris. Une source gouvernementale tunisienne souligne que ce report est bien dû à la situation politique en France. Jean-Noël Guérini, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône en voie d'exclusion du Parti socialiste, est poursuivi pour détournement de fonds publics dans une affaire de licenciement présumé frauduleux. Pour l'avocat de l'élu, il s'agit d'un litige de droit social qui ne supporte aucune qualification pénale. Un attentat déjoué sur la Côte d'Azur, c'est la conviction de l'antiterrorisme français. 900 grammes d'explosifs ont été découverts le 17 février dernier dans un immeuble de Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes. Un explosif rudimentaire déjà utilisé par le passé dans des attentats comme à Marrakech en 2011. L'immeuble où il a été retrouvé avait été le point de chute d'un homme lié à la cellule dite de Cannes-Torcy, un groupe soupçonné de l'attaque à la grenade d'un commerce juif à Sarcelles en septembre 2012. Nouvelle grève à la SNCM. Les syndicats de marins dénoncent des menaces graves et imminentes sur l'avenir de la compagnie maritime. Le trafic des ferries est quasiment paralysé entre la Corse et le continent. Trois des quatre bateaux en service sont bloqués à quai. C'est la deuxième grève cette année à la SNCM. Après un conflit de près de 10 jours début janvier, les syndicats veulent pousser le gouvernement à chasser l'actionnaire principal, Transdev, pour mettre en place un actionnariat provisoire. Toujours pas de traces de l'épave du Boeing de la Malaysia Airlines, mais des objets flottants ont à nouveau été repérés par des satellites dans la zone de recherche au sud de l'océan Indien. 122 objets précisément. Leur taille varie de 1 à 23 mètres. Impossible de dire pour le moment s'il s'agit des débris de l'appareil disparu depuis le 8 mars, mais la course contre la montre se poursuit pour retrouver les boîtes noires. La durée de vie de leur batterie est limitée à 30 jours. Début raté pour l'entrée en bourse du concepteur du très populaire jeu Candy Crush. L'action de King Digital Entertainment a perdu jusqu'à 15% dans les premières cotations à la bourse de New York. Candy Crush est un jeu d'alignement de bonbons lancé il y a 2 ans. Il revendique une centaine de millions d'utilisateurs quotidiens sur ordinateur ou sur mobile.
Ce dimanche sur France Inter,
élection municipale, deuxième tour.
Une édition spéciale de la rédaction, présentée par Hélène Jouan et Marc Fauvel.
À partir de 18h10, reportage, analyse et commentaires. Dès 20h, premiers résultats dans nos 10 villes tests et direct partout en France jusqu'à 22h. En partenariat avec Ipsos, Steria, France 2, Le Monde, Le Point et Public Sénat.
Élection municipale 2014, deuxième tour.
Une édition spéciale à suivre sur France Inter et franceinter.fr.
Ce dimanche à partir de 18h10. France Inter.
La voix est libre.
16h04, l'heure de retrouver Carrefour de l'Odéon. Avec vous, Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Aurélie Bambuco, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, à 16h30, je recevrai le grand, magnifique ténor péruvien, s'il vous plaît, Juan Diego Flores. Il est beau, il a un charme fou, il a des aigus absolument emballants. Et puis, il va nous parler de son nouveau disque, L'Amour. Et pour commencer, on va terminer, on va aller dans ce très beau coffret Sony Classical qu'on a déjà abordé depuis 2 jours. 3e épisode aujourd'hui, quelques beaux enregistrements encore. Donc, ça s'appelle 50 Great Recordings. 50 grands enregistrements. Et voici tout de suite un extrait de l'Octuor à cordes de Félix Mendelssohn, interprété sur instruments anciens par le groupe qui s'appelle l'Archi Boudelli. Eh bien, Archi, c'est les archers, Boudelli, c'est les boyaux. Donc vous voyez, c'est un mot qui a été formé un petit peu en force, comme ça, par le violoncelliste Aner Bilsma. Et il joue avec les Smithsonian Chamber Players. Ce sont d'autres musiciens. Tous ont entre les mains des instruments de Stradivarius prêtés par la Smithsonian Institute. Bah, y a le talent surtout, en plus des instruments prestigieux. Voici la preuve, le final presto de l'Octuor à cordes de Félix Mendelssohn. Thank you. Le presto final de l'octuor à cordes génial de Félix Mendelssohn, il l'a composé à l'âge de 16 ans, c'est une merveille absolue, interprété par l'archi Boudeli, on repère le violoncelliste Anner Bilsma, son épouse Vera Betz, et puis aussi donc des musiciens du Smithsonian Chamber Players, et c'est un très beau disque Sony Classical. En voici un très beau aussi, belle alliance entre Kathleen Battle, soprano américaine de couleur, et Wynton Marsalis, magnifique trompettiste de jazz, qui joue énormément d'œuvres de jazz, donc ils se sont réunis pour prouver que le classique et le jazz pouvaient vraiment faire bon ménage. De toute façon, Marsalis a enregistré pas mal de musique classique aussi. Et ils interprètent une cantate extrêmement vivante de Jean-Sébastien Bach, Jahrzehnt Gott in allen Ländern, c'est-à-dire acclamer Dieu dans tous les pays. Et voilà, ils vont de concert, si j'ose dire, cette trompette tout à fait puissante, claire, solide, rassurante presque. Et puis